Cet ouvrage est lu par les bibliothèques sonores de France de l'Association des donneurs de voix dans le cadre de l'exception aux droits d'auteur en faveur des personnes en situation de handicap. Article L122.5, L122.5.1, L122.5.2 du Code de la propriété intellectuelle. Il est réservé à une consultation strictement individuelle par les personnes empêchées de lire. Toute reproduction totale ou partielle ou diffusion, quel que soit le mode, est interdite. Le trésor de Juliette Eveno. Chapitre 1.
Sur la pile de la décharge, Beau s'était réfugié à l'ombre d'un gros réfrigérateur sans porte.
Écrasé de chaleur, il se reposait un instant. Là-haut, les mouettes et les corbeaux piaillaient à vous transpercer le crâne.
Griffant le ciel de leurs notes cinglantes et longues, ça piaillait, on n'avait jamais la paix.
La chaleur, le danger, la solitude, Beau s'y était fait. Vraiment, ce qu'il ne supportait pas, c'était qu'on lui casse les tympans, et les pias faisaient ça constamment.
Grimaçant, il leva les yeux. Ils étaient nombreux à voler au-dessus de la décharge. Des centaines peut-être. Beau savait que des centaines signifiaient beaucoup.
Devant lui, un sac se mit à flotter parmi les détritus dans un froufrou de plastique, s'envolant doucement.
Il ferma les yeux. Le son n'était pas déplaisant.
On pouvait l'écouter, ça faisait comme une mer qui montait, descendait, montait, descendait.
Beau s'apaisa, bercé par la marée.
Hé, toi, au travail!
Il sursauta et se hâta de courir un peu plus loin.
Sur son dos, un sac en toile de jute ballottait cognant douloureusement contre ses côtes.
Ça faisait ping-tong, ping-tong. On pouvait s'inventer une marche glorieuse dessus.
Une histoire de victoire vécue à plusieurs. Inventer, c'était encore ce qu'il y avait de mieux à faire.
Tout était moche. Coupant, cassé, collant, sa pêche de la journée, le désespérer. Deux chaussures dépareillées, une bouilloire au circuit arraché. Un cadre photo au verre brisé, à peine plus que des saloperies.
Bien loin des trésors tant convoités, s'il voulait manger ce soir, il avait intérêt à débusquer des câbles électriques au moins, ou un objet rare.
Une jolie idée étincelante, ça plairait au chef.
Peut-être qu'il l'inviterait à rester un peu dans la grande tente, à l'abri des tiques et des féroces. Là où on n'entendait presque plus crier les corbeaux et les mouettes. Chassant ses rêveries comme des mouches, Beau se concentra.
Chapitre 2.
Le soir, quand le soleil s'en alla dans le fleuve, Beau courut faire inspecter sa pêche. Le chef, la peau grêlée, les mains usées et blessées, pencha son manteau pointu vers ce que Beau lui présentait. Des chaussures dépareillées ? C'est la même taille les deux. Ok, et ça ? Il retourna la bouilloire, saloperie.
Il balança l'objet au loin, Beau présenta son cadre photo. Saloperie ! Et le reste, tout le reste, saloperie, saloperie, saloperie. Avec un soupir, le lieutenant tira finalement de sa poche un bonbon à la menthe qu'il lui tendit. Pour les chaussures, Beau s'en alla tête basse pendant que la nuit tombait. Il était si faible qu'elle le devança et jeta son manteau noir sur la décharge avant qu'il soit rentré dans son chez-moi.
Le chez-moi est un endroit qu'on ne partage pas. C'est l'une des règles de la décharge. Trouve un chez-moi, cache-le, garde-le et surtout ne fais pas de bruit la nuit. Lui, qui ne trébuchait jamais, puta soudain sur un objet, une sorte de marmite au timbre lourd. Un gros bong retentit et aussitôt après, un grondement s'éleva. Beau se figea. Un féroce, ça venait de la droite. Beau l'entendit approcher. Précipitamment, il fit demi-tour, bondissant sur les talus en silence, suppliant ses pieds de bien vouloir voler comme des fées et son cœur de taper moins fort. Lorsqu'il pensa s'être suffisamment éloigné, il regarda derrière lui dans l'obscurité. Avançant vers la marmite sous ses pattes griffues, claquant dans l'air son horrible bec dentier. Arrivé au niveau de la marmite, la bête cogna dedans plusieurs fois. Bong, bong.
Elle leva la tête et vit Beau. Il retint un cri et se remit à courir de toutes ses forces. Le suivant à grande enjambée, le féroce se cogna contre toutes sortes d'objets. Des ting, pong, pong retentirent derrière lui et bientôt un autre grondement rejoignit le premier. Beau sentit la peur lui brûler les semelles. Là, là, tout près, il était presque arrivé. D'un plongeon, il disparut dans un boyau secret de la décharge. Chez moi. Le cœur battant, il entendit les féroces claquer leur bec près de l'entrée. Mais le boyau était trop étroit pour eux. Il était sauvé.
Chapitre 3.
Étourdi par le tambour de son cœur, il marchait à quatre pattes, comptant le rythme de ses battements. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 20, beaucoup. Là, il y avait une malle. Il l'ouvrit pour patatras passer au travers et atterrit dans son chez-moi. C'était un petit nid de futon, puant et douillet. Beau put se détendre enfin et allumer la radio.
Certains gosses de la décharge adoptaient un petit animal. Un rat, une fouine, un chat. Beau, c'était sa radio qu'il serrait contre lui le soir. Elle qui lui tenait chaud, il suffisait de trifouiller les boutons et des voix mystérieuses s'élevaient. Venez vous murmurer à l'oreille, chantant. Il s'inventait des tas d'histoires dès qu'un nouveau son montait. Celui-là, grave, c'était un vieil homme sévère qui grondait le petit flûtio distrait.
Et celui-là, grinçant, c'était un féroce qui cherchait à vous croquer les mollets. Et ce cœur qui s'élevait, c'était toute une famille qui vous embrassait. Il était Nilangin. Beau avait trop d'émotions pour la radio, qu'il n'avait que quelques crachotis à lui donner. Hésitant, entrecoupé, c'est pour ça qu'il s'était fabriqué une flûte, dans un tuyau en plastoc qu'il avait percé avec un couteau et un tournevis.
Tirant la flûte de sa poche, il la porta à ses lèvres, puis sifflotant son histoire du soir, celle d'un enfant bondissant comme un lapin pour regagner son terrier. Les sons étaient plus légers que ce qu'il venait de vivre dans les vallées du déchet. Plus doux que ceux de la radio, ils remplirent le creux froid dans sa poitrine et l'aidèrent à s'apaiser, jusqu'au lendemain où tout serait à recommencer.
Chapitre 4.
Au matin, il voulut chercher la marmite à laquelle il s'était cogné, certain que le chef lui en donnerait un bon prix, mais quelqu'un l'avait déjà ramassée. Il crut entendre les corbeaux ricaner, la journée eut un goût détestable et fut remplie de cris. Alors que la lumière déclinait, amenant la promesse d'un autre soir, sans manger, son regard fut attiré par un bout de machin rouillé. Il le tira du fratras, délicatement, c'était un tuyau, un gros tuyau, de la taille d'une gouttière. Mais il y avait un bec pointu comme une carafe et un côté évasé comme un entonnoir. Beau cogna dessus son ongle sale pour le faire sonner. Trong, 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 rigola le tuyau vibrant sous ses doigts. C'était une sorte de fer. Avec de l'huile, on pourrait le nettoyer. Il y avait une bizarre encoche, aussi trop grosse pour une pièce, trop petite pour un CD.
Beau aurait pu y glisser son petit doigt, mais il ne fallait pas. Le fer rouillé, c'était dangereux. Il suffisait d'une blessure et patatras, on mourait. Beau sentit grandir en lui une excitation nouvelle, la même qu'il avait ressentie après des heures de tentatives infructueuses. En entendant le grésillement du poste radio, enfin réparé, quand une mélodie était montée de son cœur jusqu'à ses yeux. Il éloigna sa trouvaille de son visage pour mieux l'observer. C'était un objet qu'il ne connaissait pas. En cela, il était précieux. Il le glissa dans sa hotte, puis se présenta à son lieutenant. Les jambes vibrantes d'espoir, le grand vida le sac en grognant. « Saloperie, saloperie, saloperie !» Puis, il pencha son menton pointu vers Beau, à moitié intéressé. « Qu'est-ce que t'as, là ?» À geste de prestidigitateur, Beau lui montra l'objet inconnu. Le chef resta silencieux un long moment, puis il tendit les mains. Ses doigts blessés effleurèrent le bec et l'encoche, le bord évasé.
On dirait un genre de gouttière, mais sur son visage constellé de cicatrices, une expression étrange était apparue. Une sorte d'hésitation que Beau n'y avait jamais lue. Ça le rajeunissait. J'ai déjà vu ça, lâcha-t-il. C'est une corne, tu vois? Il montra le drôle de bec creux. C'est vide parce que c'est mort. Une corne en fer, alors? Ça fait partie d'une bête? Oui. Il semblait réfléchir. Je connais quelqu'un, dit-il au bout d'un moment, qui rassemble les morceaux de la bête. un collectionneur. Il a le reste du squelette. Faut croire. Suis-moi.
Chapitre 5.
Dans la poitrine de Beau, le feu prenait, jetant des étincelles jusque dans ses membres. Ses doigts tremblaient. Il entendait résonner sous son crâne les craquements et crépitements de l'espoir naissant. Comme un tambourin fou. « Arrête ça !» lui cria soudain le chef. Beau se figea, et il ne s'était pas rendu compte qu'il fredonnait. Il grimpa les piles de déchets, à la suite du grand cabri fébrile. La nuit tombée, donnant au ventre blanc des mouettes des allures de fantômes. Leurs cris s'espaçaient. De temps en temps, au creux d'une vallée, Beau croyait entendre le grondement d'un féroce. Dans ce coin inconnu de la décharge, il resta collé au chef, qui lui jeta soudain un regard. C'est là. Il souleva une bâche de plastique qui s'écarta tel un voile. Beau s'enfonça à sa suite.
Ils pénétrèrent dans une petite grotte. Les murs étaient tapissés d'objets inconnus, certes cassés comme tout ce qu'on trouvait dehors, mais brillants, luisants, polis. On aurait dit que quelqu'un amoureusement les avait cajolés des jours durant. Mais Beau avait bien regardé, il n'y en avait aucun qui ressemblait à son trésor. Du fond de la grotte, une fille apparut. Son front n'était pas barré de plis soucieux, son sourire n'avait rien de cruel, ses joues n'étaient pas creusées.
Beau n'avait pas assez de vocabulaire pour la trouver belle, mais quelque chose en lui avait bougé. Il se dit qu'il voulait rester dans cette grotte. Peut-être que ses propres soucis s'apaiseraient. « Vous voulez du thé ?» Le chef hocha la tête d'un air dur. Ça se voyait qu'il était intimidé. La fille leur servit des tasses brûlantes. Ce n'était pas aussi bon que la soupe, mais c'était mieux que rien. Beau but sa tasse à petites gorgées, comme on fait quand on n'en a pas assez.
Le chef montra le tuyau. « J'ai un bout de la bête. C'est lui qui l'a trouvé. » Beau fit oui du montant, avide de découvrir ce que son trésor lui rapporterait. La fille avait écarquillé les yeux. Une forme de joie était passée sur son visage, tel un oiseau dans le ciel du soir. Elle demanda « Qu'est-ce que vous voulez en échange ?»« Un réchaud, » dit le chef. C'était pour cuire. Beau avait déjà vu ça dans la grande tente, où non seulement on était à l'abri des tiques et des féroces, mais en plus on mangeait des plats chauds et tendres, sans os, sans cartilage qui craque entre les dents. Le réchaud, c'était un bon trésor. La fille le rapporta. Le chef lâcha le tuyau et partit avec son réchaud. Elle se pencha alors vers Beau. « Et toi ?» Il hésita à demander la même chose, mais la grotte, dans le fond, cachait un secret. « Je veux voir la bête. »
Chapitre 6.
L'ombre de l'oiseau repassa sur le visage de la fille. « Je dois te bander les yeux. » Elle le fit, puis Beau, entre ses mains, se sentit tourner sur lui-même. Une fois, deux, trois, quatre. « Viens avec moi. » Dans le noir, Beau la suivit, la frôlant du bout des doigts. À un moment, il dut se baisser. C'était un passage secret. Ça ressemblait à un boyau de son chez-moi. Ils tournèrent de nombreuses fois et descendirent plus bas, longtemps, encore plus bas, jusque dans une pièce où l'air était chaud et gai. La fille lui retira son bandeau, des enfants étaient assis sur des coussins colorés. « Qu'est-ce qu'il fait là ?» demanda aussitôt un grand garçon. Il s'était levé et regardait Beau. Celui-ci brandit son trésor comme une excuse. « Il a demandé à voir la bête, » dit la fille. Le garçon haussa les épaules. « Si il veut, mais après, il faudra qu'il reparte et tu l'emmèneras loin en lui bandant les yeux. »
« Tu connais la règle. Trouve un chez moi, garde-le, cache-le, » pensa Beau. La fille saisit l'objet de Beau et se dirigea vers l'extrémité de la pièce où se tenait un grand meuble mal coiffé. La bête. Elle était morte, les dents carriées, le corps raide. On aurait dit une cheminée brûlée sans feu. À l'intérieur, une cheminée qui avait peu de chances de reproduire des étincelles. Des tas de tuyaux lui dressaient une frange de vieux métal étonné. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Beau. La fille s'approcha de la bête et enclencha le tuyau dans un trou de la frange. Il était gris et gondolé, alors que les autres étaient brillants et lisses. Mais la bête eut soudain l'air mieux coiffée. Un orgue. Alors la fille s'assit sur un tabouret et appuya sur les dents de la bête. Des grondements assourdissants et joyeux montèrent en cœur du ventre de la cheminée. Beau sursauta. C'était mieux que des étincelles. Ça vous faisait crépiter de bas en haut. C'était...
Beau se sentit soulevé par une trop grande émotion et cacha très vite ses yeux. Les larmes, fallait pas les montrer, fallait pas. Lorsque la fille s'arrêta, que le cœur assourdissant et joyeux retomba, Beau avait essuyé ses yeux avec ses paumes sales et redressé les épaules. « Voilà la bête, » dit la fille. « Qu'en penses-tu ?» Beau fit retomber son air bravache et cherchait en lui le sens de toutes ces mélodies qu'il accompagnait dans les détritus. Marchait à ses côtés, sifflait avec lui dans la nuit, remplissait les creux de sa poitrine, le réchauffait. Et du bout des lèvres, il dit ce qui savait être vrai, sans comprendre vraiment ce qu'il disait. « C'est beau !» Elle sourit. « Maintenant, va falloir partir. »
Chapitre 7.
Le garçon et la fille le prirent chacun par une main pour le tirer doucement vers la sortie. Beau retraversa la pièce de coussins colorés sous le regard curieux des enfants. Tous avaient dans les mains des trucs et des machins qu'ils polissaient amoureusement. Beau se sentait creux, un trou dans sa poitrine grandissait à mesure qu'il s'approchait de la sortie. Juste avant qu'on lui remonte les yeux, il s'arrêta. « Attendez !» Son cœur faisait « bon, bon !» Comme la marmite. « Est-ce que je pourrais rester ?» Le grand garçon se planta devant lui, bras croisés. « Ça coûte cher de rester. » Il ouvrit les mains. « On t'accepte parmi nous seulement si tu as un très grand trésor à partager. » Beau pensa aussitôt à sa radio, mais elle était loin, fêlée, et le plus souvent, elle toussotait faiblement. Alors, hésitant, il tira de sa poche la petite flûte grise et moche, la petite flûte en plastique qu'il avait fabriquée avec un tuyau, un couteau et un tournevis. Et il la porta à ses lèvres. Et sifflotant son petit air, il raconta l'une de ses histoires qu'il s'était inventées. La mélodie s'envola avec ses pieds de fée. Autour, les enfants avaient arrêté de polir leurs objets. Les voyant approcher, Beau, intimidé, souffla trop fort dans la flûte et un pouic aigu fendit l'air chaud de la caverne.
Il ferma les yeux, serra les dents. Il s'était ridiculisé. Les larmes, fallait pas les montrer, fallait pas. Il sentit soudain la flûte lui être arrachée des mains. « Alors ça, » dit le garçon. Beau ouvrit les yeux. Le garçon examinait la flûte d'un air réjoui. « C'était toi, le pipeau ?» demanda la fille en tapotant l'épaule de Beau. « Où étais-tu caché ? On t'a souvent entendu la nuit, » reprit le garçon quand on patrouillait.
« On cherchait d'où ça venait. C'était si joli. Pipeau, où es-tu ? On appelait. Tu ne nous as jamais entendus ?» Beau ne savait pas quoi dire et son cœur était en train de grossir dans sa poitrine. Grossir et brûler, crépiter d'espoir. Ça piquait un peu. Il n'arrivait pas à parler. La fille et le garçon le regardaient. « Tu sais, Pipeau, ici, on est tous arrivés avec le même trésor à l'intérieur de nous. » Elle désigna les enfants autour, qui brandirent leurs objets polis, si étranges, pleins de cordes, de clés, de becs, de molettes.
Un à un, ils se mirent à jouer la musique qu'ils avaient à l'intérieur d'eux. Chaque nouvelle voix grave ou aiguë venait grossir l'histoire qu'ils racontaient. Remplir et chauffer la caverne et ce cœur qu'ils s'élevaient, c'était toute une famille qui vous embrassait.
Ici se termine Le Trésor de Julia Thévenot, aux éditions Thierry Magnier en 2021.